Bonjour, nous démarrons l'émission « Une heure en Palestine » qui est programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur les ondes de Radio Galère et qui est animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Aujourd'hui, c'est Palestine 13 qui vous propose cette émission. C'est Sidi qui est la technique. Merci Sidi et merci à toute l'équipe de Radio Galère de nous accueillir depuis tant d'années. Avant de démarrer, je vous rappelle que pour Palestine 13, il est important que nous soyons plus nombreux. Dans une ville comme Marseille, dans cette grande ville, dans un département d'accueil et de diversité, nous avons besoin d'être plus nombreux à lutter pour la justice en Palestine. C'est une cause emblématique, c'est une cause historique et c'est une cause ô combien humaine. Dans une association comme la nôtre, chacun peut trouver sa place. Ceux qui aiment partager leur lecture, leur voyage, ceux qui aiment partager leur combat. Les syndicalistes, aujourd'hui, où c'est le congrès de la CGT, j'y pense, les syndicalistes préoccupés par la situation de quasi-esclavagisme des Palestiniens qui travaillent en Israël, et pourtant qui nous apprennent beaucoup, puisqu'au cours d'une émission, nous les avons rencontrés, et des syndicalistes palestiniens, et ils nous ont présenté leur syndicalisme de branche, c'est-à-dire qu'un peintre, même sans emploi, même employé dans un autre emploi, mais qui est peintre, reste syndiqué au syndicat des peintres, et c'est à méditer pour nous, alors que la précarité et la sous-traitance nous remettent en question notre syndicalisme traditionnel. Si vous pensez que la dignité passe par le travail, vous serez intégré dans un groupe qui le croit aussi et qui met en pratique, puisque nous vendons tout au long de l'année des produits palestiniens, de l'huile, d'une coopérative de Cisjordanie, de la céramique d'Hébron, des broderies, du zaatar, des savons naturels et parfumés. Et bien entendu, nous sommes partie prenante de la route du zaatar à travers la Méditerranée de notre ami Philippe, des voiles pour la paix, et aussi de l'importateur de produits palestiniens Fixouk et de sa boutique marseillaise Yabaladi, qui est au 12 place Alexandre Labadie dans le 1er arrondissement de Marseille. Je continue à vous parler de notre association pour vous donner envie de nous rejoindre. À Palestine 13, les férus de culture, de littérature, de cinéma trouveront aussi leur place puisque nous organisons des manifestations culturelles et que nous valorisons tous les événements en lien avec la Palestine que se déroulent sur le territoire. Palestine 13 est aussi membre du collectif local Palestine en résistance. Si vous souhaitez nous rejoindre et adhérer à l'association, j'espère que je vous ai donné envie. Un petit message sur notre adresse, c'est asso.palestine13@gmail.com et nous vous contacterons très vite. Si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur ce qui se passe en Palestine, vous pouvez consulter notre site internet qui est mis à jour quotidiennement www.assopalestine13.org. Nous renouvelons les articles de notre site et de notre page Facebook chaque jour en essayant d'alterner l'actualité et des documents de fond, ainsi que des pages historiques, culturelles ou sportives, par exemple. Vous y trouverez des pétitions, des appels à participer aux campagnes nationales ou internationales, comme celle en cours contre Puma, le sponsor de l'OM. Honte à lui, car il est aussi le sponsor des équipes de foot des colonies israéliennes illégales. Car bien sûr, Palestine 13 est partie prenante du mouvement BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions, mouvement créé par les Palestiniens en référence au mouvement de boycott de l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Vous pouvez aussi nous rencontrer prochainement pour une soirée de poésie de Palestine au Centre social Mairie Colline dans le 8e arrondissement, vendredi 31 mars à 18h30. Un spectacle de poésie qui a été créé par trois artistes marseillais, Jacques Mandréas et Angie Pic de la compagnie théâtrale Argile, et Fatia Faure, chanteuse et musicienne qui joue de l'oud, et c'est très 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 beau. Donc le 31 mars à 18h30. Pour aller au centre Mairie Colline, il faut prendre le bus 19 au rond-point du Prado. Et pour rentrer, il y a aussi le bus 583 qui vous ramène en centre-ville. Une autre date à noter, dans le cadre de la manifestation Le printemps du film engagé, qui se déroule du 31 mars au 7 avril, vous pourrez découvrir le 1er avril à 19h30 au cinéma Gyptis le documentaire Palestinienne en présence de sa réalisatrice Mariette Auvray et d'Astar Mouellem, l'artiste palestinienne qui est représentée dans ce film. Alors parmi les activités de Palestine 13, il y a les rencontres Palestine J'écris ton nom qui se déroulent régulièrement à la librairie Maupetit. La dernière avait pour invité Sylvain Sipel, à propos de son livre « L'État d'Israël contre les Juifs » qui est paru aux éditions La Découverte. Une rencontre passionnante à laquelle le public marseillais a répondu nombreux puisqu'il a fallu rajouter des chaises. J'ai eu envie de vous faire partager le début de cette rencontre animée par notre ami Pierre Stamboul de l'Union française, Juive française pour la paix. Je remercie Richard qui a réalisé l'enregistrement et a travaillé la qualité du son. Je vous rappelle que Sylvain Sipel a été directeur de la rédaction du Courrier international et rédacteur en chef du Monde. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter le début de sa conférence.
La première question... c'est que tu dises un petit peu d'où tu viens, ta famille, tes origines et ton parcours professionnel comme journaliste.
C'est-à-dire quand on parle de soi ou de sa famille, etc., soit on dit trois, quatre trucs, soit on est bavard.
Vas-y, like. Entre les deux.
C'est pas de bavard, voilà. Non, mais je sais pas. D'abord, je ne m'attendais pas à la question, donc je n'ai pas eu le temps de réfléchir.
Je précise juste pourquoi je pose la question. On est dans une période où systématiquement, juifs, sionistes, israéliens, les gens mélangent.
D'accord. Donc voilà. Alors, je viens d'une famille d'Europe de l'Est, mes deux parents étaient. Mon père était de l'Ukraine actuelle, parce que c'était une région qui est passée 17 fois entre les armées. Enfin, ça passait sans arrêt tous les 20 ans, tous les 40 ans. Enfin, ça changeait de propriétaire. Mais en gros, c'est l'Ukraine actuelle. Et ma mère de la Silésie polonaise. Mais moi, je suis né en France, à Bordeaux, juste après-guerre. J'ai été éduqué comme juif, mais et donc de manière paradoxale. Parce que, en fait, vous savez que en Israël, il y a eu une... Ils ont défini l'État d'Israël comme un État juif et démocratique, dans les lois fondamentales. Et donc, les religieux ont exigé qu'on définisse le terme juif. C'est-à-dire qui est juif. Il y a eu tels débats à la Knesset, ça a duré 25 ans, ils n'ont jamais obtenu une majorité sur aucune définition. Et ils ont décidé de laisser tomber. Bon, juif. Mais après, chacun a sa définition, etc. Ma définition à moi, c'est que, en fait, mes parents étaient très profondément juifs. Ils étaient l'un et l'autre complètement athées et en même temps complètement ancrés dans la culture de l'Europe de l'Est juive. Donc, ils parlaient yiddish. Donc, à la maison, quand j'avais 15 ans, je savais beaucoup mieux le yiddish qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai énormément oublié, puisque je n'ai pas l'occasion jamais d'en parler. Mais quand j'avais 15 ans, vraiment, je comprenais à peu près de quoi il parlait, etc. et des fois je parlais un peu avec eux. Ils n'ont pas été déportés, mais ils sont des rescapés. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont tous perdu à peu près, mon père 90% et ma mère 80% de leur famille pendant la guerre. Et donc, c'était un sujet qui était un marqueur, quoi. C'était un marqueur. La Shoah, ça a été un marqueur. Ça a été d'autant un marqueur que j'ai un souvenir, par exemple, plus tardif, mais quand j'ai habité Israël pendant 12 ans. Et à un moment, il y avait eu toute une histoire. Notre fils, qui avait 4 ans, était rentré de l'école. Et il avait demandé à ma femme est-ce que c'était vrai qu'on avait tué ses frères et sœurs. Il a répondu, mais c'est bien cher. On a tué notre seul enfant. Tu n'as jamais eu ni frère ni sœur. Il a dit, mais si, la maîtresse, elle l'a dit. Alors, elle a dit, on a tué 6 millions de nos frères et sœurs. Alors, il faut expliquer à un enfant ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas ça que je veux raconter. Ce que je veux raconter, c'était que mes parents sont venus en visite en Israël un jour. Et... moi, j'étais assis au salon, dans un fauteuil, je ne sais pas ce que je faisais, et dans une pièce attenante, ma femme et ma mère parlaient ensemble. Et ma femme lui a raconté cette histoire. Et elle était très énervée, parce qu'elle disait, mais c'est absurde de dire à un enfant qui a 4 ans qu'on a tué 6 millions de nos frères, parce qu'un enfant de 4 ans, il compte 1, 2, 3, beaucoup. Donc, il n'a aucune représentation de ce que c'est que 6 millions. C'est absurde. Et de manière générale, elle était vraiment offusquée par cet enseignement. Et ma mère, donc, qui était dans la pièce d'à côté, a dit, écoute, nous, je sais qu'il y a des gens qui n'ont rien voulu dire après la guerre, mais nous, nous avons tout expliqué à Sylvain, quand il était très petit, et à ma connaissance, ça ne l'a pas plus traumatisé que ça. Moi, j'étais en train de lire, et j'ai laissé le journal. Et je me suis dit, mais comment elle peut penser ça? Comment elle peut penser ça? Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne se sont pas comportés comme on dit souvent. Les gens ne voulaient pas entendre, parce qu'en fait, mon père était un militant sioniste. Très, très mobilisé. En fait, il était le principal dirigeant du sionisme socialiste, Ben Gurion, si vous voulez. Il a commencé plus à gauche quand il était jeune. Voilà. Alors, il y a une tradition familiale. Moi, j'ai toujours pensé... J'ai un fils et 3 filles, mais j'ai un fils. Et j'ai beaucoup pensé, je me disais, quand il avait 15 ans, 16 ans, mais qu'est-ce qu'il va trouver qui va nous faire sortir de nos gonds? Je disais ça parce que mon grand-père, qui lui a vraiment été fasciné par le père de mon père, par les Einsatzgruppen, c'est-à-dire par les brigades nazies qui s'occupaient de la liquidation, de ce qu'on a appelé la Shoah par balle en Ukraine, et donc tous ses frères, sœurs, enfin bon, etc., je vous passe le détail. En fait, ce qui s'est, mon grand-père était rabbin. Mon grand-père était rabbin, mais il était un rabbin dissident. Donc il était dans une, ne me demandez pas laquelle, enfin je sais laquelle, une des grandes sectes. Il y avait deux tendances dans le judaïsme religieux, juif. Il y avait ce qu'on appelle les chassidim, vous connaissez ça, les chassidim. Et il y avait ce qu'on a appelé les opposants aux chassidim, c'est-à-dire les misnagés, c'est-à-dire ceux qui récusaient et qui d'ailleurs accusaient les chassidim d'être des crypto-chrétiens. En gros, dans les deux tendances, il y avait une tendance qui pensait que l'essentiel, c'est que Dieu est amour, que ce qui compte, c'est l'amour du prochain, Et ça, c'était les racines. Et les autres, on sait que pas du tout. Ce qui compte, c'est le savoir, c'est la connaissance. Et il n'y a rien au-dessus du savoir, de la connaissance. Donc, il faut se plonger dans la Bible du matin au soir. Bon. Et donc, il venait de ce milieu-là. Et donc, déjà, son père était un peu dissident. Donc, parce qu'il a refusé d'être le rabbin de la ville. Et quand il a eu une sœur qui était... Plus tard, ils ont compris que c'était une méningite. Elle avait 17 ans, elle était décédée. Enfin, elle est décédée. Mais quand elle a été très malade, le pieux rabbin a dit à sa femme, « Va chez le boucher et pas le boucher cachère. Va chez le boucher et achète de la viande avec beaucoup de sang. » Dans la cacheroute, on enlève le sang. Dans la nourriture cachère, on enlève le sang avant de le faire cuire la viande. Or, la légende veut... Moi, quand j'étais enfant, on me donnait beaucoup de steaks parce qu'on pensait que le sang, ça revigore, ça rend fort, etc. Et donc, c'était des croyances d'Europe centrale. Et donc, il lui a dit, on s'en fout de ce que dit la cachette. Il était rabbin, hein. Il dit, la Bible dit, la vie est au-dessus de tout. Eh bien, la vie est au-dessus de tout. Et va acheter de la viande. Et on s'en fout de la cacheroute. Mais il s'en est un peu trop foutu, parce que comme son fils, c'est-à-dire mon père, était comme lui, eh bien, quand il avait 15 ans, il a coupé ses papillotes, là, sur le côté, et puis il est rentré dans un mouvement de la gauche sioniste, qui s'appelait Shomer HaTzair, et il est devenu sioniste, etc. Et moi, j'ai été éduqué là-dedans. Donc, j'ai été éduqué dans le sionisme, et j'ai commencé à avoir quelques interrogations pendant la guerre de 67, mais je suis parti vivre en Israël en 68. J'avais déjà passé 2 ans, peu importe, je vous passe les détails. Et donc, il y a eu une évolution assez rapide. Alors, l'évolution rapide, elle s'explique par une chose fondamentale, à mes yeux, c'est que la guerre de 67, si vous vous souvenez, c'est 5 ans après l'indépendance de l'Algérie. L'indépendance de l'Algérie, c'est 62. Toute mon éducation politique, je vivais dans une maison où mon père était quelqu'un de très politique. Il lisait Le Monde du matin au soir, y compris à Bordeaux, enfin bon, ce qui était un peu anachronique. Et donc, moi, je vivais dans cette ambiance-là. Quand j'arrive en 68, il y a 2 choses qui me choquent. La première, c'est que j'étais étudiant, enfin, j'ai passé au kibboutz, puis j'ai été étudiant, et quand je disais aux autres étudiants, il y avait des débats sur le campus, sans fin, et je leur disais, mais... L'occupation, ça ne va pas marcher. Les Palestiniens ne peuvent pas accepter la domination d'une armée. C'est pas possible. Ils disaient, mais tu comprends rien aux Arabes. Tu comprends rien aux Arabes. Tu leur donnes un bout de pain et quelques olives, et puis voilà, quoi, tu les mets dans ta poche. Enfin, tout ça est absurde. D'abord, ils vivront mieux avec nous qu'avec les Jordaniens, puisqu'avant, c'était la Jordanie qui dominait la Cisjordanie actuelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie. Donc, ça va être beaucoup mieux avec nous. Tout ça est ridicule. Et je me disais, mais ils sont dingues ou quoi? Ils comprennent. Enfin, tout ça. Et c'est-à-dire que pour moi, toute mon éducation politique venait de la guerre d'Algérie. C'est-à-dire la prime éducation politique. Je me suis intéressé à la politique à travers la guerre d'Algérie. J'étais un peu en avance à l'école, donc j'étais avec les plus grands. Mais donc, j'ai commencé à 13-14 ans. Quand les autres avaient, disons, 15 ou 16 ans. Et effectivement, j'ai des mémoires vraiment. J'étais à Charonne, etc. Alors j'étais tout gosse. Mais c'était quelque chose qui m'a marqué de manière indélébile, la guerre d'Algérie. Et donc, je retrouvais quelque chose qui m'étonnait énormément, parce que j'avais eu toute une éducation sioniste, dans un mouvement de jeunesse sioniste, auquel j'étais très attaché. Et ça a été, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à bifurquer. Et en fait, ça a été assez vite, beaucoup plus vite que j'aurais imaginé. C'est-à-dire, je suis passé en Israël, il y avait un mouvement qui s'organisait, qui s'appelait Paix et Sécurité, et puis très vite, j'ai commencé à basculer dans l'extrême-gauche, et je me suis retrouvé au bout de moins de 2 ans dans une organisation. Alors, pour vous dire combien on était nombreux, j'étais à la première manif, vraiment à la première, d'ailleurs, il y avait une photo sur un des livres publiés par Maspero il y a très longtemps, sur lequel je figurais, elle est assez facile, c'est la première manif derrière la banderole, à bas l'occupation. Et à bas l'occupation, il y a dans tout Israël, devant la Knesset, 70 personnes. Voilà. Le camp qui est hostile à la colonisation et à l'occupation, il y a 70 personnes. Alors, il y avait plus de monde, mais pour mobiliser, pour faire une manifestation, voilà, il y a 70 personnes. C'est ça ce que représente le camp. Alors, il n'y a pas un seul arabe. Si, il doit y en avoir deux qui sont venus, mais parce qu'ils sont étudiants. Mais sinon, évidemment, les arabes ne viennent jamais dans ce genre de manifestation. C'est trop compliqué, trop difficile, trop inquiétant, etc. Voilà. Voilà, la suite, je bascule, je me mets à lire comme un dingue, j'essaye de comprendre pourquoi ils sont comme ça. Quand je déménage du kibbutz avec ma femme est complètement enceinte, elle va accoucher le lendemain, et c'est à cause du bus et des routes qui étaient très mauvaises. Et donc, on arrive dans le bâtiment qui est dans un ensemble d'accueil d'étudiants sur lequel j'ai obtenu un deux pièces. On sort et devant il y a un immense terrain vague où il y a des ouvriers, donc on est en septembre 68 et il y a des ouvriers du bâtiment. C'était très intéressant, qui étaient tous arabes des territoires occupés. Je comprendrai plus tard que pendant, jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, mon fils aîné a cru que le mot arabe voulait dire ouvrier du bâtiment. Il pensait que c'était le terme qui parlait des ouvriers du bâtiment, parce que c'était les seuls arabes qu'il voyait et qu'il connaissait. Et donc, sauf que il y avait un truc plus dérangeant, c'est que les camionnettes venaient les chercher pour les ramener au village vers 4h ou 5h de l'après-midi, et des gosses qui avaient 10-12 ans sur le long du chemin où ils allaient pour monter dans les camionnettes, leur jetaient des pierres. Bon, je ne comprenais pas, je ne comprenais absolument pas qu'est-ce qui se passait, pourquoi ça se passait comme ça, enfin, voilà. Donc, je me suis mis à lire, je me suis mis à aller à plein de conférences, à plein de gens, etc. J'ai fini par rencontrer un trotskiste qui avait passé 2 ans à l'OCDE à Paris et qui avait rencontré une organisation trotskiste parisienne. Et voilà. Et après, c'est un parcours pas très intéressant en soi, mais voilà. Jusqu'au moment où ma femme, donc au bout de 10 ans de vie commune en Israël, m'a dit « Toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, je pars. » Et donc, on est rentré. Mais je vais quand même vous raconter une anecdote qui nous a quand même... je ne dis pas que c'est ça qui nous a fait partir, mais tout de même. Un jour, notre fils, qui est donc... Il devait être en cours moyen, deuxième année, ou peut-être première année. Hein, il avait 8 ou 9 ans. Il est rentré et il a dit, mardi prochain, c'est le jour de Tzahal, le jour de l'armée. Donc la maîtresse, elle a dit qu'on peut faire un cadeau aux soldats. On peut faire le cadeau qu'on veut. Et si on ne veut pas faire de cadeau, on ne veut pas de cadeau. Mais voilà, donc dites à vos parents, etc. Donc il est rentré. Déjà, il faut que vous compreniez que pour lui, ça devait être, les choses étaient incompréhensibles, je pense. Parce que nous, à la maison, on accueillait par exemple des... D'abord, on avait des membres de l'organisation à laquelle j'appartenais, qui étaient palestiniens. Et il y avait des étudiants palestiniens à l'Université de Tel Aviv. Certains, quand ils n'arrivaient pas à se loger, ils habitaient chez nous pour des périodes indéfinies. Et ils savaient l'hébreu beaucoup mieux que nous. De sorte que quand le gosse avait besoin d'une aide, ben, ils allaient voir l'étudiant palestinien qui l'aidait à faire ses devoirs en hébreu. Donc tout ça était un peu flou. Et dans cette école, après cette histoire-là, un jour, on a eu une convocation de son institutrice. Et l'institutrice nous a dit que ça n'allait pas avec Ariel, qu'il y avait des problèmes. C'était un garçon turbulent. Donc elle a dit, non, c'est pas qu'il est turbulent. Donc on lui a dit, mais pourquoi vous nous convoquez? Elle a dit, je vais vous dire pourquoi je vous convoque. Parce que j'ai demandé aux enfants de dessiner un carré. Et il a dessiné une croix gammée. Donc je lui ai dit, franchement, je ne crois pas. Mais elle m'a dit, je vous assure, il a dessiné une croix gammée. Ben, j'ai dit, écoutez, je vais vous dire pourquoi je ne crois pas. Parce que c'est un signe, la croix gammée est un signe qui est très difficile à dessiner. Et d'autre part, vous n'êtes pas sans savoir que deux fois par semaine, parce qu'Ariel avait un problème, il ne voyait quasiment pas d'un œil, d'ailleurs il ne voit toujours pas, quasiment pas d'un œil, c'était l'œil droit et il était gaucher. Et donc il avait un problème de coordination qu'on voyait tout de suite dans l'écriture, dans le dessin, etc. Je lui ai dit, écoutez madame, arrêtez vos bêtises, quoi. Vous avez demandé qu'il passe un carré, et il a croisé deux... Enfin, tout ça est absurde. Elle m'a dit, mais pas du tout, il a dessiné une croix. Elle était... Voilà. Et à un moment, je lui ai dit, j'ai eu une idée, vraiment, j'étais très fier de moi. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me dessiner, vous, la croix gammée? Ben, elle a dit, elle a pris un crayon, elle a fait paf, paf. Elle a dit, voilà. Je dis, voilà quoi? Ben, elle a dit, voilà, c'est la fée. Et je lui ai dit, mais ça, madame, c'est une croix. Mais ça n'est pas une croix gammée. Elle m'a dit, une croix gammée, c'est pareil. Il est rentré. Bon, je lui ai dit, voilà, madame. Mais moi, ma décision a été prise. D'abord, je savais qu'on allait partir d'Israël. Et l'année suivante, on l'a inscrite au lycée français, à Jaffa. Parce qu'on s'est dit, le problème...
Il est toxique.
Ouais, c'est toxique. Le problème, c'est que... C'est que cet enfermement... Cet enfermement-là, c'est quelque... Évidemment, on peut faire des explications politiques, etc. Mais on oublie que ça a des conséquences. Ça a des conséquences terribles sur... D'abord sur l'ignorance, et pas seulement, ça a des conséquences terribles sur le regard qui est porté sur leur environnement. Les Israéliens sont absolument convaincus que la France est un pays très profondément antisémite. Hein? Et à l'inverse, c'est les États-Unis, par exemple.
Steve Bannon, par exemple.
Pardon ?
Steve Bannon.
Steve Bannon, Trump ou d'autres, etc. Et donc... Ça a des conséquences vraiment très importantes. Donc là, on termine avec moi et on passe à autre chose. Donc, au bout d'un moment, on est revenu. J'avais envie de devenir journaliste. J'ai essayé d'entrer à l'AFP, etc. Finalement, j'ai trouvé un truc dans un journal qui s'appelle Le Matin de Paris, que les plus anciens parmi vous doivent... voilà. Donc, éphémère, j'en avais une dizaine d'années à peu près.
Ouais, c'est ça.
Mais moi, je ne suis pas resté 10 ans. Je suis parti avant. Et puis après, j'étais journaliste, et puis j'ai fait des articles, j'ai fait des livres. Voilà. Et non, j'ai fait beaucoup plus, j'ai rencontré Michel Sanson.
Au matin. Au matin. Au matin. Absolument.
Ah, bon. Alors, si...
Voilà, donc je viens de là. Donc, si vous voulez, j'ai un... Pour dire des choses plus platement, ne me demandez pas qu'est-ce que c'est qu'être juif, mais moi, je me sens très profondément juif, pour une raison qui m'étonne beaucoup, mes enfants sont comme moi, ils se sentent tous les uns les autres, ils ont beaucoup moins de culture et de connaissances que moi, ils n'ont pas été élevés là-dedans, alors que moi je l'ai été. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé étudier la Bible, mais je n'ai pas fait, par exemple, j'ai pas fait ma communion juive, par exemple, parce que mes parents s'en foutaient complètement de ça. Mais en revanche, la connaissance est supérieure à tout, donc il faut absolument aller étudier la Bible, connaître tout ça, etc., savoir d'où on vient. Hein. Et avec cette idée qu'avait mon père, par exemple, que la Bible, c'est une histoire légendaire, il ne croyait pas une seule seconde que tout ça, ce sont des réalités, mais il pensait que c'est fondamental parce qu'à ses yeux, c'était la Bible qui avait préservé l'existence d'un peuple juif. Après, on peut en débattre, je crois que c'est beaucoup moins ça que lui, mais peu importe. C'est en partie vrai, mais peu importe. Bon, voilà, donc je vais m'en tenir là, et puis et le reste...
Alors, je vais passer à la deuxième question. C'est sur le titre de ton livre, « L'État d'Israël contre les Juifs ». Et on sait bien actuellement la propagande éhontée qu'on a en ce moment. Vous critiquez Israël, vous êtes antisioniste, donc vous êtes antisémite. Et toi, tu défends l'idée inverse, c'est-à-dire l'idée que quelque part, Israël, c'est pas du tout les Juifs tels que tu viens aussi de les décrire. Tu l'as un petit peu abordé dans ton vécu personnel, mais continue sur la société actuelle.
La société israélienne
actuelle, qu'est-ce qu'il oppose pour toi fondamentalement à l'idée que tu as de judaïsme ?
Alors, d'abord, on me pose tout le temps la question d'expliquer le titre. Si un livre s'appelait Daesh contre l'islam, ou Daesh contre les musulmans. Est-ce que tout le monde comprendrait ? Oui. Mais pourquoi on ne comprend pas quand il s'agit de l'État d'Israël ? Non. Pourquoi je fais cette analogie ? Parce que qu'est-ce qui fait qu'on comprend quand c'est l'islam ? On comprend que Daesh fait du tort aux musulmans et à la quiétude des musulmans, à leur sécurité. Évidemment, ceux qui s'emparent de Daesh pour avoir une attitude raciste à l'égard des musulmans, ils existent. Il y a des gens qui se délectent de ce que fait Daesh pour dénoncer non pas Daesh, mais l'islam de manière générale. Bien sûr que ces gens-là existent. Fort heureusement, tous ceux qui dénoncent Daesh ne voient pas en Daesh une expression de la totalité de l'islam. Bon, ben c'est la même idée, au fond, que je veux défendre ici. En même temps, c'est beaucoup plus difficile à défendre. C'est plus difficile à défendre pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que, en apparence, on connaît mieux le judaïsme que l'islam. En réalité, je pense que les deux se valent. C'est-à-dire que la part d'ignorance est absolument énorme, que ce soit vis-à-vis du judaïsme et vice versa. C'est-à-dire l'ignorance des musulmans, de ce que peut être la chrétienté, etc., est insondable. Je ne parle pas des élites intellectuelles, je parle de la connaissance. Voilà. Donc, la première chose qui me semble indiscutable, c'est que le racisme et tous les racismes vont s'alimenter de toutes les failles qu'ils trouvent chez ceux qui suscitent leur vindicte. Donc, c'est ce qui fait que le génie d'Hitler qui a été de faire que le juif était à la fois le bolchevique et Rothschild. Il était les deux. C'était un paradoxe. Mais le juif pouvait être... il était nocif parce qu'il était à la fois le pire avec le Richard capitaliste et le pire avec le bolchevique, avec le bouton entre les dents. Et ne cherchez pas les contradictions. De la même façon, tous les traits possibles qui vont émerger du juif, des juifs, de certains juifs, etc., vont alimenter un antisémitisme exactement de la même façon que Daesh alimente un anti-islamisme. C'est inévitable. Le problème, c'est que le sionisme est un... Il y a une phrase qu'on attribue à Golda Meir, elle est très connue en Israël. J'ai cherché à la retrouver sur Internet, je ne l'ai jamais trouvée. Donc, je ne peux pas dire... je n'ai pas trouvé. Mais c'est une phrase qui est attribuée à Golda Meir. Golda Meir avait été première ministre en Israël, c'était bon là. Et Golda Meir aurait dit beaucoup d'antisémitisme, c'est affreux. Et on a vu les conséquences de ce que ça donne, c'est-à-dire la Shoah. Pas d'antisémitisme, c'est très embêtant. Parce que personne n'éprouve le besoin d'aller ailleurs, de venir chez nous. Ce qu'il nous faut, c'est un faible niveau, mais constant d'antisémitisme.
Quitte à le susciter s'il n'existe pas.
Quitte à le susciter s'il n'existe pas, ce qui a été fait par Israël dans certaines circonstances. Mais ce que je veux dire, c'est que le sionisme puise dans les caractéristiques attribuées aux juifs par le racisme, que ce soit Gobineau et d'autres, le sionisme puise là des éléments qui appartiennent au discours raciste. Le premier élément, par exemple, c'est le fait que les juifs soient improductifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de juifs paysans. Alors après... Il se trouve qu'il y a eu des usines en Pologne et qu'il y avait énormément de juifs dans les usines polonaises de Lodz. Mais la topographie du juif, c'est quelqu'un qui fait de l'argent et qui ne produit pas. Dans l'imagerie antisémite. Mais ce n'est pas seulement dans l'imagerie antisémite. Les premiers livres sionistes sont des livres qui expliquent que le juif, en ce qu'on appelle galout, c'est-à-dire dans l'exil, cet exil, Shlomo Sand a très bien déconstruit tout ça, mais cet exil qui commence prétendument avec la chute du Temple en 70 et qui ne se termine qu'avec le renouveau d'Israël, il y a 2000 années de non-existence juive. Mais cela étant, l'imagerie du juif est une imagerie dans le sionisme initial qui est très proche de l'imagerie antisémite. Le juif vit une vie anormale. Alors, il vit une vie anormale parce qu'il n'a pas d'État. Mais il vit aussi une vie anormale dans toute la littérature sioniste initiale parce que on expliquait l'histoire de la pyramide inversée. Tous les peuples, il y a une grande population, et puis au fur et à mesure, et puis à la fin, il y a les grands violonistes, et puis etc. Eh bien, le juif, c'est l'inverse. C'est tout petit en bas, puisqu'ils ne produisent rien. Il n'y a pas de paysans juifs. Donc, au fond, il n'y a que des transmetteurs. C'est ça. Les intermédiaires. Ils ne produisent rien, mais, et puis ils sont juristes, ou médecins, ou violonistes. Voilà. Et donc, c'est ça les juifs. Donc, c'est une situation. On aura un État, et ce jour-là, nous deviendrons un peuple normal. Mais nous sommes un peuple anormal. Et nous vivons une anormalité. Et cette idée-là, c'est une idée-là qui rejoint complètement les stéréotypes racistes et les stéréotypes antisémites. Sur la place du juif. En particulier. La place du juif comme intermédiaire, mais pas seulement. pas seulement quand on relit Gobineau, mais quand on lit Maurras, on trouve tout ça. Là-dessus, le sionisme s'est développé. Alors, il n'y a pas de responsabilité, ce n'est pas sa faute, c'est le lieu où il est né. Le sionisme, il est né formellement en Autriche, parce que Herzl était autrichien, le fondateur, le fondateur de l'idée sioniste est un Autrichien. Mais les troupes étaient toutes en Europe de l'Est. Tous les nationalismes d'Europe de l'Est sont des nationalismes à caractère ethniciste.
Et antisémite.
Peut-être qu'on peut, hormis le Tchèque, ou du moins c'est beaucoup moins marqué. Mais les Polonais, les Lituaniens, les Russes, je ne parle pas des Balkans, enfin bon, c'est absolument effroyable. C'est quoi un nationalisme ethniciste? C'est-à-dire, c'est un nationalisme de type précisément Barès, Maurras, etc. Et donc, c'est ce qui est... Il y a deux types de nationalisme. Il y a un nationalisme qui donne la Révolution française ou la Révolution américaine, ou etc. C'est-à-dire la gestation et la formation d'une nation à ambition et à vocation internationale est donc ouverte. Et il y a, ça ne change rien au fait que ce type de nationalisme puisse lui aussi connaître des crimes. Et les Français et les Américains en ont connu beaucoup. Mais c'est une autre philosophie, un autre regard sur l'univers et sur soi-même, alors que le nationalisme qui soit völkisch, on disait en Allemagne, hein, völkisch, tous les nationalismes völkisch, et les nationalismes qui soient polonais, lituaniens, bulgares, étaient tous ethnicistes. Et donc, le sionisme l'a été lui aussi. Il est né là-dedans, il est né dans ce terreau. C'est quelque chose que mon père disait souvent, il disait, au fond, les Juifs, c'était ceux qui étaient les plus opprimés de tous. Toute l'Europe centrale et orientale, c'était des situations d'oppression effroyables, avec des grands empires, la Prusse, l'Empire tsariste, etc., les Austro-Hongrois, bon. Mais, et puis des dizaines, sinon plus, de peuples qui étaient, à des degrés divers, opprimés. Et les Juifs l'étaient aussi. Sauf qu'ils étaient complètement au plus bas de tous, c'était eux les plus opprimés de tous. Mais dans les mentalités, ils n'étaient pas différents des autres. Ils n'étaient pas différents. Les autres étaient ethnicistes et ils étaient pareils. Et quand ils se retrouvaient entre eux, ils pensaient qu'ils étaient forcément meilleurs que les autres, et plus forts que les autres, et plus intelligents que les autres, et qu'il n'y en avait que pour eux. Mais ils n'étaient pas seuls à penser comme ça, les Polonais pensaient pareil, et puis etc. Cet élément-là est un élément qui a terriblement joué, d'autant que, donc, si vous voulez, Ben-Gurion et les siens ont amené ça en Palestine, et ont bâti, le sionisme est un nationalisme qui s'est bâti sur les fondations, sur les fondements d'un nationalisme ethniciste, et qui a fini très récemment avec la fameuse loi sur l'état-nation du peuple juif, votée en 2018. C'est-à-dire qu'il y a des... Au fond, cette loi valide ce qui a été validé depuis très longtemps, c'est-à-dire que tout le monde est citoyen, mais il y a des citoyens qui ont plus de droits que les autres citoyens. C'est-à-dire que ce qui compte n'est pas la citoyenneté. L'élément clé dans ce nationalisme-là, c'est ce qui compte n'est pas l'appartenance à la nation, ce qui compte, c'est l'appartenance à l'ethnie. On peut dire tribal, il n'y a plus de tribu. C'est vrai que je dis ethnie, mais le mécanisme est tribal, effectivement. Le mécanisme est tribal. Et la tribalité est supérieure à la citoyenneté. Ce qui compte, ce n'est pas d'être citoyen d'un État. En France, longtemps, je pense que ça ne fonctionne plus aujourd'hui, mais pendant très longtemps, les Juifs disaient « heureux comme Dieu en France ». C'était une expression en yiddish. Pourquoi? Parce que quand on était en France, une fois qu'on était français, on disait, pour rire, Moïse est français, c'est-à-dire moi je suis français, hein, Moïse ça veut dire c'est Moïse en yiddish. Hein. Bon. Et donc, moi je suis français. Et quand on devenait français, c'était fini. On avait la paix c'était terminé. Tout ça est un peu idéalisé. Mais cette idée-là, qu'il y avait une voie, c'était de devenir français. Et le jour, le nombre de juifs, moi j'ai mes meilleurs copains d'enfance, c'était un frère et une sœur, les parents étaient des rescapés de la Shoah, ils ont appelé leur fils Pierre et leur fille Françoise. Voilà. Hein, et on devenait français. Et quand et nos enfants seront français, et tout ça, ça sera fini. Tout cette... Voilà. Et donc, c'est exactement ça que le sionisme évitait. C'est l'insertion dans l'environnement. Puisque tout est, ce qui est théorisé, c'est que le juif est inassimilable. Exactement comme dit les antisémites. Que le juif est inassimilable. Et donc, j'ai fait un large détour, mais pour revenir au cœur de la question, bien sûr que ceux qui vont développer l'antisémitisme à partir des actes que commet Israël, c'est exactement la même absurdité que ceux qui vont développer de l'islamophobie à partir des actes commis par Daesh. Mais en même temps que les musulmans doivent dénoncer Daesh pour les actes qu'ils commettent, eh bien, je pense qu'il faut, parce qu'ils sont néfastes à la sécurité des juifs. De la même façon, il est temps, comme ça advient aux États-Unis aujourd'hui, que les juifs commencent à se dire ce qui se passe en Israël et ce que commet Israël. Eh bien, nous n'en voulons pas. Et nous n'en voulons pas car nous pouvons en souffrir de ces actes-là. Voilà, d'où le titre.
Mon autre question va être, dans le livre, tu développes assez largement la situation des États-Unis.
Oui.
Et il y a à peu près autant de juifs aux États-Unis qu'en Israël.
C'est vraiment exactement pareil.
40% des juifs du monde entier. Mais la situation y est assez différente. Il y a un engagement assez fort, notamment de la jeunesse juive états-unienne, contre Israël. Dans le mouvement BDS pour le boycott, on trouve beaucoup de jeunes juifs. Dans les universités, ce sont souvent des juifs qui réussissent à obtenir que l'université rompe ses relations avec les universités israéliennes. Comment tu l'expliques? Et en même temps, ça n'a pas de conséquence sur le fait que le gouvernement états-unien, quelle que soit sa direction, soutient inconditionnellement Israël et le protège et lui assure l'armement et impunité. Donc voilà, un petit peu comment tu peux expliquer cette situation.
Il y a plusieurs... D'abord, il faut dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment une prise de distance de la part du judaïsme américain vis-à-vis d'Israël, qui a commencé, je dirais, il y a 10-12 ans. Moi, j'ai été, en tant que correspondant, j'ai été 6 ans aux États-Unis, et de 2007 à 2013. En 2007, ça fait 15, il y a 15 ans, je suis parti, et j'ai commencé à sentir les prémices de ce phénomène à peu près à mon arrivée, un peu après, disons 2010 par exemple. Donc ça fait 12-13 ans qu'on sent poindre un mouvement. Alors, que dans BDS, il y a essentiellement des juifs et des arabes ou des musulmans, etc., il n'y a rien de surprenant, parce que finalement, qui est-ce qui s'intéresse à Israël, à Palestine? Qui est-ce qui va s'intéresser prioritairement à l'enjeu israélo-palestinien? C'est essentiellement des juifs soit des arabes, soit des musulmans, et plutôt des arabes que des musulmans d'ailleurs. Et donc c'est normal que globalement il y ait moitié-moitié. C'est ça qu'on trouve dans les campus. C'est un mouvement qui a commencé en 2006, formellement, ça s'est créé en 2006, mais en fait, ça a commencé à émerger au début des années 2010. Je ne vais pas résumer ce que je dis dans le bouquin, mais en quelques phrases, c'est un mouvement qui... BDS, je parle spécifiquement de BDS, c'est un mouvement qui est un échec total sur le plan pratique. BDS, ça veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. Donc, sur le plan pratique, c'est un échec total. Il y a très, très peu de grandes... Il y a eu, par exemple, Tom et Jerry, vous connaissez les glaces Tom et Jerry, c'est deux juifs de Baltimore, je crois, ou Philadelphie, je ne sais plus, qui ont fondé ça il y a une cinquantaine d'années, ou une quarantaine d'années, ça marche, ils ont un pognon fou, et ils ont annoncé officiellement qu'ils arrêteraient de vendre des glaces dans les territoires occupés. Alors, bon, c'est un grand succès de BDS, si vous voulez, il doit y en avoir trois ou quatre de ce type. Il y a des déclarations, en général, d'artistes, de musiciens, de peintres, de cinéastes, etc., qui soutiennent BDS. Et l'impact économique ou politique de BDS sur... l'impact économique de BDS sur Israël est nul. En revanche, l'impact politique n'est pas du tout négligeable. Mais pas du tout négligeable. Pas seulement parce que les Israéliens, pendant une période, ont fait un ministère spécial pour s'occuper de BDS, et avec doté de moyens non négligeables. Ils avaient 100 millions de dollars par an. Quel honneur! Quel honneur! Mais pas seulement pour ça. Ce que fait, en fait, l'impact de BDS, c'est un impact sur la légitimité d'Israël. C'est ça qui fait mal. C'est pas du tout l'impact réel économique. Là où BDS progresse, et il y a eu des débats sans fin en Israël, à l'intérieur du gouvernement Netanyahou, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas ? Netanyahou, quand il est revenu au pouvoir au début, il a arrêté ce ministère. Il a fermé le ministère. Pourquoi il a fermé le ministère ? Parce que le clan autour de lui, de ceux qui lui disaient, écoute, c'est assez simple, plus on met de fric contre BDS, et plus il y a de notoriété pour BDS, et plus on est perdant. C'est 10 fois plus intelligent de les ignorer, de faire ce que... Par exemple, j'ai fait 2 bouquins sur Israël-Palestine, dans les 2 cas, le CRIF n'a pas écrit une ligne. En général, instantanément, ils hurlent, etc. Ils n'ont jamais écrit une ligne dans aucun organe. Pas une ligne. Et en Israël, ils disaient la même chose. Il faut, comme m'avait dit un officier israélien que j'avais interrogé, on tue plus facilement avec un coussin et on ne laisse pas de traces. Alors que si on met des coups de couteau, il y a des traces, et vaut beaucoup mieux étouffer avec un coussin. Et donc le silence est plus efficace. Alors après, ils sont revenus, parce qu'il y a aussi des gens qui vivent de cette... peu importe. Mais pour en revenir à BDS, ça c'est quelque chose qui est absolument significatif. Mais BDS, c'est le petit bout de la lorgnette. Ce qui se passe en Israël, aux États-Unis, l'évolution, elle est double, elle est sur 2 plans. Il y a un secteur minoritaire, mais qui grandit, et qui grandit rapidement, et qui sont dans une opposition politique. Ce sont des gens qui disent, nous ne voulons plus être identifiés à Israël, et nous ne pouvons plus nous identifier à un État qui commet les actes qu'il commet. Et donc, qui sont dans une rupture politique avec Israël. Ce clan-là, alors on est aux États-Unis, on trouve même des sionistes parmi eux. Des gens qui se prétendent sionistes, mais qui disent « moi je suis pour Israël, mais pas Israël comme ça, mais je reste sioniste ». Il y en a. De mon point de vue, qui restent sionistes tant qu'ils voudront, s'ils dénoncent l'apartheid en Israël.
Charles Anderlin en France.
Comment ?
Charles Anderlin.
Anderlin en France, voilà. Bon, par exemple. Et il y a un deuxième groupe. Alors ceux-là sont très présents dans les campus. Sur les campus, cette fraction-là, elle n'existe quasiment pas en dehors des campus américains. En revanche, il y a une deuxième mouvance qui vraiment est immensément plus, en nombre, plus importante. Elle fait moins de bruit, mais elle est aussi problématique pour le sionisme, et je vais essayer d'expliquer pourquoi. C'est la branche de ceux qui disent « il y a Israël et il y a le judaïsme américain ». Et moi, je suis un juif américain. Ce n'est pas mon problème, Israël. Moi, je me rappelle, à un moment, j'étais aux États-Unis, j'ai eu des problèmes de genoux, donc j'allais voir un kiné. Et le kiné, il devait avoir entre 30 et 35 ans, il avait deux enfants en bas âge. Et bon, comme j'étais journaliste, il voulait tout le temps parler. Donc on me posait 50 000 questions. Et un jour, on s'est mis à parler. Il m'a posé des questions sur Israël. Il m'a raconté que, il m'a dit, quand il avait 20 ans ou 19 ans, il a été en Israël. Il a fait un tour. Il avait de la famille dans une colonie israélienne près d'Hébron. Il a dit, j'ai été les voir. Je me suis dit, mais c'est la maison des fous. Là. Qu'est-ce qu'ils foutent en plein milieu des terres arabes et tout. C'est quoi la vie qu'ils ont? Enfin bon. Il a dit, je suis rentré, c'est pas pour moi ce truc-là. Mais il m'a dit, je vais vous dire, en fait, moi, ce qui m'emmerde. Moi, quand je dis à quelqu'un que je suis juif, ah bon, on me dit, t'es juif, qu'est-ce que tu penses d'Israël? Et je pense rien. Mais moi, je pense rien d'Israël. Je m'en fous. Pourquoi? On ne me demande pas qu'est-ce que je pense de la Norvège ou de l'Uruguay. Mais j'ai aucune idée, je ne connais pas. Et je ne veux pas avoir une idée particulière, je m'en fous. Moi, je suis un juif américain. Moi, je veux que mes enfants ils étudient la Bible. Moi, je veux que mes enfants ils sachent qu'est-ce que c'est qu'être juif, etc., etc. Je veux qu'ils passent leur bar mitzvah. Bon. Mais Israël, merde, mais ça ne me concerne pas Israël. En apparence, ça a l'air anodin. Mais ce n'est pas du tout anodin. Parce que le sionisme a une ambition. Le sionisme entend non seulement représenter les juifs dans le monde entier, mais représenter les juifs exclusivement. La loi israélienne ne dit pas que Jérusalem est la capitale d'Israël. La loi israélienne dit que Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif. C'est-à-dire que Jérusalem est la capitale d'Israël, c'est le symbole de la totalité du peuple juif. De ce point de vue-là, le fait que de plus en plus de juifs américains ne disent plus « Vive Israël », mais disent, sans forcément dire « Abba Israël », mais sans Israël, on ne veut plus. C'est quelque chose qui met en danger le sionisme et son activité. Ça le met en danger parce que ça contredit un des piliers de base de l'idéologie sioniste qui consiste à dire qu'en dehors d'Israël, il n'y a pas de vie juive possible. Hormis une vie de souffrance. Hormis une vie de danger. Et les juifs américains, contrairement par exemple aux Français ou aux Anglais ou aux Argentins, qui sont les autres pays où il y a des communautés juives importantes, les juifs américains, ils sont aussi nombreux que les juifs israéliens. Il y a 6,5 millions de juifs israéliens et 6,5 millions de juifs américains. Ils ont, sans aucun doute, beaucoup plus de départements d'études juives dans les universités américaines qu'il n'y en a en Israël. Et ce n'est pas tant qu'ils ont plus de départements d'études juives, c'est que l'étude juive est une étude différente. Par exemple, il y a une histoire des juifs qui a été faite par un grand historien qui s'appelle Simon Schama, qui est anglais, mais en fait il enseigne à Columbia, à New York. Et c'est en deux volumes. Moi, je n'ai pas lu le premier parce que c'est une histoire biblique et ça ne m'intéressait pas trop. En revanche, j'ai lu la deuxième partie et qui commence en 1492 et qui va jusqu'à la fin du 19e, qui s'arrête à la fin du 19e et qui est un livre formidable. Qui est un livre formidable pourquoi? En plus, le type est sioniste par ailleurs. Mais il a signé en Grande-Bretagne des pétitions dénonçant la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens. Mais il y a une différence fondamentale. Les enfants israéliens sont éduqués de la première année d'école à la dernière dans une idée centrale. Pendant 2000 ans, le peuple juif a vécu sans État, donc sans capacité de se défendre. Et donc, il y a eu une vie d'horreur et de souffrance permanente. Et là, on ouvre un livre qui ne... Non, il dit pas l'inverse. Il ne cache pas les tragédies, les drames, le fait que dans beaucoup d'endroits, l'antisémitisme était dominant, le fait qu'il y a eu un antisémitisme chrétien, un antisémitisme protestant. Enfin, c'est un livre. Mais il raconte aussi qu'il y a eu, que ce soit en Espagne, que ce soit en Hollande, que ce soit en Allemagne, etc., des phases de gloire, des phases de où le judaïsme a fleuri, des phases où, ça n'était, où le judaïsme n'était pas dominé par la souffrance et l'isolement de l'exil, mais qui était capable de mener une vie agréable et sécure. Et ça, c'est exactement, d'abord, ce que un enfant israélien n'entend jamais à l'école, jamais. Et surtout, c'est ce qui ne correspond pas à la vulgate sioniste. La vulgate sioniste, c'est il y a la fin de l'histoire, c'est la chute du temple, et entre la chute du temple et le renouveau, c'est-à-dire 1948, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a rien. Il y a un immense vide comblé par la seule souffrance. Et c'est tout.